Bretagne 5, écoutez la Bretagne.
Lectures en liberté, Denis Flageol.
Bonsoir. Nous nous retrouvons pour Lectures en liberté et la suite du roman de Franck Bouys, Grossir le ciel. Gus était en train de faire frire une belle truite Fario sortie du congélateur. On pouvait encore en attraper quand on savait où chercher. Rien à voir avec les truites arc-en-ciel, lâchées par la société de pêche, gavées d'aliments en sac, qui se jetaient sur le premier leurre qui se présentait ou finissaient par crever d'une maladie dont l'élevage en bassin les préservait avant de se retrouver dans une vraie rivière. Et Gus connaissait justement quelques-uns de ces endroits où se cachaient des truites sauvages, capables de gicler dessous une souche comme la foudre, puis de fondre sur une proie et de la broyer avec leurs mâchoires de prédateurs montés sur des vérins cartilagineux recouverts de mucus. Il avait appris à pêcher tout seul, à évaluer les signes qu'envoyait la nature. Et si jamais vous le croisiez rentrant bredouille, c'était même pas la peine d'envisager de faire mieux. Il était 8 heures du soir bien sonné quand Gus entendit un bruit de moteur, puis une voiture se garer devant le portail. La télé bredouillait au-dessus du frigo. Gus savait l'heure qu'il était parce qu'il venait d'entendre la musique annonçant le journal télévisé. Il s'avança face à la fenêtre donnant sur la cour pour vérifier qui se pointait, même s'il n'avait pas grand doute concernant l'identité du nouvel arrivant. Le bruit de tôle caractéristique que faisait la portière de la fourgonnette d'Abel quand il la fermait, comme si la carrosserie tout entière allait dégringoler par terre. Gus regarda alors machinalement son fusil pendu à une poutre. Il n'était pas chargé. Abel entra, sans frapper. Il portait sa grosse veste de chasse. Gus remarqua immédiatement qu'elle bâillait d'un côté et qu'il devait y avoir quelque chose d'anormalement lourd dans une des poches. « Qu'est-ce que tu fais là ?» demanda Gus, pour se redonner un peu de la contenance qu'il avait perdue en voyant surgir Abel. « Ben, comme tu peux le constater, je te rends une petite visite. » « Ça se fait, entre voisins, pas vrai ? Mais je te dérange peut-être ?»« Pas du tout. Je me préparais à manger. »« T'aurais pas un verre en trop ? J'ai le gosier tout sec. »« Bien sûr que si. » Gus attrapa un verre sur l'évier en faisant attention à ne pas tourner le dos à Abel, puis versa du vin qu'il venait de tirer pour faire Chabrol. « Merci, Gus. T'as l'air rudement surpris de me voir. » « Un peu. C'est pas souvent que tu rappliques à l'improviste. Bah, tu vois, les choses changent. Ça te fait plaisir, au moins ?»« Évidemment que ça me fait plaisir. » »« Alors, tu l'as tronçonné, ce bois ?»« Ouais. Mais j'ai pas terminé. Tu veux récupérer ta tronçonneuse ?»« Non. Je te dirai si j'en ai besoin. » « T'es pas venu pour ça, alors ?» Gus était de plus en plus nerveux. Pour contrer les tremblements de sa main, il retournait fréquemment la truite dans la poêle à l'aide de son couteau. La peau, imprégnée d'huile, grésillait et se recroquevillait sous l'effet de la chaleur. « Tu vas finir par la faire cramer, cette belle truite, si tu continues. »« C'est comme ça que je l'aime. »« Mais t'as pas répondu à ma question. » Je t'ai déjà dit que c'était pour ainsi dire une visite tout ce qu'il y a d'amical. Si tu le dis. Tu veux que je te laisse manger tranquille ? Ah, je suis pas pressé. Tant mieux, tant mieux. Moi non plus, je suis pas pressé. Abel s'assit sur une des chaises disposées autour de la table de la cuisine, avec son verre posé devant lui qu'il fixait comme s'il s'agissait d'une relique. Gus ne savait pas quelle attitude adopter, s'il devait s'asseoir à son tour maintenant que la truite était cuite. Il posa la poêle brûlante sur le rebord de l'évier avec des gouttelettes d'huile qui explosaient en l'air, telles des fusées de feux d'artifice. Puis il s'assit juste en face d'Abel, sans être en mesure de décrocher un mot. Ce dernier s'enfila une longue rasade de vin rouge en la gardant un long moment en bouche, comme si c'était le plus fameux des vins bouchés. Puis il fit tourner le verre vide dans sa main, pendant que Gus gambergeait. Abel semblait visiblement s'amuser de la situation.
« Fameux ?
Dis-moi, t'as pas eu de visite ces derniers temps ?» demanda Abel.
« Bah, à part toi, personne !»
répondit un Gus surpris par la question qui tombait comme un cheveu sur la soupe.
« Des chapardeurs ? Ce genre d'engeance, je veux dire ? Bah, pas que je sache.
Tu devrais faire attention, alors.
Pourquoi ça ?
Ben parce que moi, j'en ai eu de la visite.
Ah bon ?
Pas plus tard que ce matin, en faisant le tour de ma grange, j'ai remarqué des drôles de traces.
C'est pratique la neige pour ça. C'était des traces de pas et de pattes de chien, pour tout dire. Quelqu'un qui serait entré dans ma grange avec son clébard, puis ressorti.
Ben comme tu le dis, c'est plutôt bizarre.
Tu trouves aussi, hein ?
En plus, il n'y a rien à voler dans cette grange.
Peut-être quelqu'un qui aura voulu se rentrer au chaud un moment.
T'en connais beaucoup ? De ce genre, de quelqu'un, toi, ici ?
Ben non, c'est sûr.
Mais il doit bien y avoir une explication que j'aime malheureusement pas.
La seule qui me vient, c'est qu'un type voulait regarder ce qui se passait devant chez moi, en restant bien planqué dans la barge à foin. Voilà ce que je crois.
Ben pourquoi on ferait ça ?
On ? Fit Abel en relevant les sourcils, comme s'il venait de vérifier une chose qu'il avait toujours soupçonnée.
Le type, je veux dire.
Ben pas la moindre idée.
Et toi ?
Ben comment que tu veux que je sache ?
Ben c'est ma foi vrai, voilà une question bête que je te pose. Faudra que je prenne le temps de réfléchir s'il y a quelqu'un qui en a après moi, au point de m'espionner. »
Abel dirigea son regard vers l'entrée, là où se trouvaient les croquenots de Gus, tout en disant
« Ben le type, il portait ce genre de godasse à crampons. »
« Ben comme beaucoup de monde en cette saison, je suppose, » répondit Gus, mal à l'aise.
« Ben évidemment, comme beaucoup de monde. »
En tout cas, moi aussi, je vais sérieusement me tenir sur mes gardes à partir de maintenant. Et si quelqu'un se pointe à nouveau, je serai prêt à le recevoir avec les honneurs. Tu peux me croire. »
Abel glissa une main dans sa poche de veste qui pendait du côté droit, puis en sortit un pistolet.
Un de ceux qu'on voit parfois dans les films de guerre, avec un barillet pour y enfourner des balles de 9 mm, qu'il précisa.
Puis, comme si ça ne suffisait pas à sa démonstration, il ajouta
« Ben, je vais peut-être même poser quelques pièges à loup, au cas où il prendrait de nouveau l'idée à mon visiteur de revenir.
Tu feras attention à ne pas vous prendre dedans, toi et ton chien. »
« Je ferai attention. »
« Alors c'est bien, je voulais juste te prévenir. »
« Merci de l'attention. »
« Je dis pas qu'il faut plus que tu viennes chez moi, » mais je m'en voudrais que ton chien reparte sur trois pattes, ou que tu prennes une balle dans la peau.
Et le tien de chien, t'as pas peur qu'il se prenne dans un de tes pièges ?
Ben ça risque pas.
Il est plus malin que le mien, c'est ce que tu penses ?
Non.
Un chien, ça en vaut un autre.
Mais le Rex, il risque plus rien vu qu'il est mort et enterré.
Ben je savais pas, ça fait longtemps.
Exactement 2 jours. Il avait pas l'air bien vieux pourtant. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Un accident malheureux. C'est des choses qui arrivent. Mais faut reconnaître que ça fait toujours de la peine, dit Gus, en pensant à Mars. Sûr. En plus, c'est rien que de ma faute, ce coup du sort. Ah, ta faute? Il y avait ce renard qui visitait mon poulailler. Je le guettais depuis plusieurs jours et avant-hier que j'étais posté dans l'étable du côté qui donne sur l'entrée de la volière, j'avais entrebâillé la porte du haut pour être bien sûr de ne pas manquer le goupil au cas où il rappliquerait. C'était le jour où il y avait tant de brouillard, tu te souviens? Oh oui, je me souviens bien de ce jour-là, dit Gus, désormais concentré sur chaque mot sortant de la bouche d'Abel. J'ai pris mon mal en patience. Et à un moment, j'ai vu passer une forme qui s'est arrêtée devant le portail du poulailler. Je la devinais à peine parce que, en plus du brouillard, j'y vois plus très clair. J'ai quand même pointé le canon tout doucement en direction du renard en me disant que, même si je le loupais, il risquait plus que moi et que sentir le plomb lui siffler au-dessus des oreilles, ça lui couperait sûrement l'envie de revenir un moment. Abel fit une pause et releva ses deux mains devant lui, imitant la forme d'un fusil. J'ai tiré. J'étais sûr de l'avoir touché parce qu'il a accusé le coup, mais visiblement pas assez pour l'étendre raide. Quand je me suis approché, il y avait une grosse traînée de sang sur la neige, mais pas de cadavre. Comme je te l'ai déjà dit, c'est rudement pratique pour suivre des traces, la neige. Et là, c'était un véritable boulevard. Gus saisit l'allusion. Et Abel poursuivit son récit comme si de rien n'était, avec des gestes visiblement censés donner encore plus de poids. J'ai remis une cartouche dans le canon, de droite, celui qui est choqué, et j'ai suivi la piste qui contournait l'étable en passant par le jardin. Je me suis retrouvé derrière la grange, c'est là que je l'ai découvert, allongé de tout son long en train de crever les tripes à l'air. Sauf que c'était pas le renard, mais bel et bien mon chien qui bavait du sang en plus de se vider par le bide. J'ai regardé la blessure de près et j'ai pas mis longtemps à voir que c'était foutu pour lui, que le véto n'arriverait pas à temps pour le sauver et que la seule chose à faire, c'était de plus le laisser souffrir inutilement, même si ça me fendait le cœur. Alors, j'ai pointé mon fusil sur sa tête et je l'ai achevé de deux cartouches. Gus repensa alors à tout ce qu'il s'était mis dans la tête, à la tache de sang dans la neige, à la pelle qui avait dû servir à enterrer le chien, et du même coup, c'était comme s'il se libérait d'un poids. Il s'en voulait d'avoir imaginé qu'Abel fût capable de tirer sur autre chose qu'un animal. Désormais, Gus n'avait plus envie qu'il parte. Il lui demanda s'il voulait un autre verre de vin. Mais Abel répondit qu'il devait rentrer chez lui pour finir son travail. Je suppose que tu vas prendre un autre chien ? Demanda Gus pour faire durer la conversation. Faudrait bien. C'est important d'avoir un chien dans une ferme, pas vrai ? Dit Abel, en désignant Mars qui roupillait contre la cuisinière à bois. C'est de la bonne compagnie. T'as raison. C'est aussi indispensable que tout le reste. Allez ! « Je me sauve maintenant, » dit Abel en se levant. « Merci de ta visite. »
Voyage où tu le veux, mais n'oublie pas de passer par chez nous. Voyage, ouvre les yeux, si tu vois Kérou se plie les genoux. À Kérou se vient faire un pèlerinage, à Kérou se mon village armoricain. Ma maison à faire, faire son visage, de mes champs j'aperçois l'île de Saint. Mon frère
de la grande ville, viens donc au pays, voir comme il est changé. Viens voir dans le cœur des filles, l'amour a cessé de les tourmenter. À Kérouse, viens faire un pèlerinage, l'horizon te montrera le chemin. La montagne à faire, faire son visage, de là-haut l'Amérique n'est pas loin. Regarde de l'immensité, la lande a rendu sa coiffe de dentelle. Comment peut-on s'émerveiller à regarder une terre universelle? Les machines ont des racines et nos bocages ont tari la source de nos chansons. À Kérouse, on a fait le grand nettoyage, ma province a soulevé son jupon. Ma province a soulevé son jupon. Les machines ont déraciné nos bocages, ont trouvé trop beau notre paradis. À Kérouse, on a fait le grand nettoyage, vois Kérouse et vois le destin du pays. Vois Kérouse et vois le destin du pays.
Lectures en liberté, Denis Flageol.
Après donc cette pause musicale, nous reprenons la lecture du roman de Franck Bouys, Grossir le ciel. Le mercure était toujours coincé en dessous du zéro, mais il faisait beau ce matin-là. Encore plus beau dans le cœur de Gus, parce qu'il s'était débarrassé de ses pensées coupables envers Abel. Il alluma la radio pour voir si les nouvelles seraient différentes sans les images, et d'une certaine façon, c'est ce qu'il se passa. Un journaliste parlait de candidat à une future élection présidentielle. Gus ne put s'empêcher de mettre un visage sur deux ou trois d'entre eux qu'il voyait souvent à la télé et dont les voix lui étaient devenues familières. Le type de la radio en avait des choses à dire sur le sujet. Il parlait des institutions et de la démocratie, des mots qui ne faisaient ni chaud ni froid à Gus, tellement il n'avait pas lieu d'être dans le coin. L'abbé Pierre n'eut pas vraiment droit au chapitre, juste un petit rappel entre deux passes d'armes. Le maire du pont de Montvert représentait une institution pour Gus. Il était également le patron de la scierie qui se trouvait à la sortie du sud du village. Une belle affaire qu'il avait montée de ses mains, et aussi un peu avec sa cervelle, et qui portait son nom. Aujourd'hui, il n'était plus vraiment le patron, il avait refilé les rênes à son fils. Ce n'était d'ailleurs pas ce qu'il avait fait de mieux, à en juger parce que Gus entendait parfois au bistrot, vu que les commentaires avaient l'air de se caler sur l'idée qu'il ne resterait bientôt rien que de la sciure de tout ce que le père avait bâti, comme souvent. Le maire s'appelait Tony Balak. Ses parents étaient arrivés de Pologne, à pied, après la Deuxième Guerre mondiale, avec le petit Tony sous le bras. À cette époque, il n'y avait pas beaucoup de démocratie là-bas, dans leur pays. L'espérance qu'ils avaient en venant en France, c'était que justement ils avaient entendu dire qu'il y en avait de la démocratie ici, après que le petit moustachu eût essayé de la retirer. Des choses importantes que Gus avait apprises durant le peu de temps qu'il était allé à l'école, de l'histoire encore fraîche, qu'on n'avait pas fini de remuer dans tous les sens. Balak s'était rendu plusieurs fois au doge, soi-disant pour s'assurer que tout allait bien chez Gus, juste avant les élections. Sûrement un concours de circonstances. Après sa dernière visite, le maire avait fait un sacré beau discours, plein de belles convictions, sur les devoirs du citoyen et aussi sur les ancêtres morts pour qu'on ait la liberté de s'exprimer. Gus n'aimait pas parler, mais il lui avait quand même répondu que son droit à lui, c'était de ne pas avoir de devoir. Là-dessus, le maire avait ajouté que lui et ses conseillers faisaient le maximum pour l'état des routes et des chemins, que c'était la démocratie qui permettait ça. Balak n'était jamais à court d'arguments, et c'était probablement le premier truc qui lui était venu dans la tête, l'état des routes. Sur le coup, Gus n'avait pas répondu. Il avait simplement levé les yeux vers le chemin communal tout défoncé qui se mourait jusqu'à son portail. Le maire avait certainement compris sa bourde à ce moment-là. C'était visiblement pas la chose à dire pour faire changer d'avis le citoyen Gus, parce que les institutions, elles, n'étaient pas prêtes d'arriver jusqu'ici. Et le Balak, tout notable qu'il était, il n'était pas non plus prêt à rentrer chez Gus. Pourtant pas un mauvais bougre, le maire. Mais la politique, Gus avait toujours pensé que ça n'avait vraiment pas de sens ici. Ailleurs, il n'en savait rien. Ben, c'était bien trop loin pour lui. Depuis ce jour, Balak avait dû comprendre qu'il ne parviendrait jamais à faire déplacer Gus jusqu'à la mairie juste pour déposer un bulletin dans une urne. Le pasteur et son temple représentaient l'autre institution du village. On était en terre protestante et en pays de huguenots qui avaient combattu contre les catholiques pour leur liberté et en avaient payé le prix. C'était Louis XIV qui avait commencé à faire la chasse aux camisards et ses sbires avaient obéi au doigt et à l'œil, massacrant à tour de bras sur leur passage sans faire de distinction entre les hommes, les femmes et les enfants. Après tout, c'était certainement une des raisons expliquant la méfiance des gens du cru, cette souffrance atavique, comme un caractère génétique supplémentaire dans l'ADN sévenol. L'église du village, quant à elle, tombait en ruine, et il n'y avait pas grand monde pour s'en inquiéter. Gus tourna le bouton du poste radio et enferma les institutions et la démocratie dedans. Il était temps d'aller finir de réparer la clôture qu'il avait laissée en chantier 2 jours plus tôt. À 5 heures du soir, Gus finissait d'enfoncer les piquets et de fixer 4 rangs de fils de fer barbelés bien serrés avec des cavaliers pendant que Mars se promenait alentour. Plusieurs fois au cours de la journée, il avait eu une étrange sensation, comme si on l'épiait. Autant de fois, il s'était dégrafé de son ouvrage pour reluquer les environs et voir s'il n'y avait pas effectivement quelqu'un dans le coin, s'arrêtant brusquement de donner des coups de masse sur les piquets ou des coups de marteau sur les cavaliers, le nez en l'air au milieu de ce grand calme tout blanc, avec le soleil qui faisait briller la neige, comme si elle était recouverte d'épingles. Ça aurait été un sacré beau spectacle, s'il n'y avait pas eu ce silence et cette gêne impalpable posée sur ses épaules. Et pas vraiment d'explication en vue. Il était en train de ranger son matériel quand il entendit Mars aboyer, sans pouvoir distinguer où se trouvait exactement l'animal, quelque part du côté de la forêt des Doges. Gus se dit que son chien devait pister un chevreuil ou un lièvre. Puis les aboiements se transformèrent rapidement en grognements, comme quand il trouvait un hérisson et qu'il ne savait pas comment s'y prendre pour le choper dans sa gueule sans se piquer les babines. Sauf qu'en cette saison, ça ne pouvait pas être un hérisson et que la bestiole que Mars avait probablement dénichée semblait avoir pris le dessus, étant donné qu'on aurait dit qu'il venait de toucher une clôture électrique. Gus se précipita en direction d'échappement en tenant son marteau en main. Après quelques dizaines de mètres, il vit Mars sortir ventre à terre du bois des Doges. Le chien aurait eu le diable à ses trousses qu'il n'aurait pas couru plus vite. Il se jeta sur son maître en tendant sa langue pour lécher une peau amicale. Gus s'accroupit et le caressa longuement pour le calmer. C'est en retirant sa main qu'il remarqua qu'elle était toute rouge. Mars saignait au niveau de l'encolure. Rien de grave apparemment, mais c'était suffisant pour lui déchirer la peau et lui occasionner une sacrée frousse. Gus pensa à un blaireau, un genre d'animal assez costaud pour mettre un chien en déroute. Il demanda à Mars avec qui il s'était battu, comme si le chien était en mesure de lui répondre. Il en aurait pourtant bien eu des choses à dire, des choses qui toujours semblaient le terrifier. Quand Mars fut enfin calmé, la curiosité poussa Gus à faire un tour pour jeter un coup d'œil sous le couvert dépenaillé de la forêt. Il trouva bien vite l'endroit où Mars s'était bagarré. Il reconnut les traces de pattes de son chien. Mais ce qui était mélangé avec, ce n'étaient pas d'autres traces d'animal, mais bel et bien des marques de pas brouillées par la lutte, suffisamment distinctes pour refouler toute méprise. Quelqu'un avait visiblement bataillé avec Mars. Gus se souvint de l'impression qu'il avait eue en réparant la clôture. Il n'avait donc pas rêvé. On l'avait observé en douce. En fouillant le coin plus à fond, Gus découvrit un porte-clés métallique dans la neige, orné d'un V et d'un W imbriqué, avec une drôle de clé au bout, pas faite pour ouvrir le genre de porte qu'il avait l'habitude d'ouvrir. Il ramassa le tout et le fourra dans sa poche. Il demeura longtemps planté au milieu de la forêt, essayant de comprendre ce qui avait pu se passer. Probable que Mars avait surpris un type. Le plus étonnant, c'était qu'il ait attaqué lui qui n'était pas agressif pour un sou, à réclamer plutôt les caresses qu'à montrer les crocs quand on ne lui voulait pas de mal. La neige était presque entièrement décapée à l'endroit où il s'était battu avec son adversaire. Gus suivit les traces emmêlées. Elles le menèrent jusqu'à un bouquet de gourmands de châtaigniers dépassant d'une souche, derrière lequel le type s'était apparemment embusqué avant que Mars ne le découvre. L'intrus pouvait ainsi embrasser le pré en contrebas et espionner tranquillement tout ce qui se passait sans risque d'être repéré. C'est à ce moment-là que Gus remarqua quelque chose de bizarre en s'agenouillant au-dessus des traces à la manière d'un pisteur. Quelque chose qui lui fit d'abord froid dans le dos. Les traces étaient vraiment petites et bien nettes, celles-là. Ce qui finit par lui glacer le sang, c'était qu'il ne faisait aucun doute que celui ou celle qui s'était carapaté dans la neige ne portait pas de chaussures. Il se passait décidément de drôles de choses ces derniers temps dans ce foutu pays, et Gus devait bien reconnaître que ça le perturbait grandement. Qu'est-ce qu'un type pouvait faire à se balader pieds nus dans la neige? Même avec ses croquenots et une grosse paire de chaussettes en laine épaisse, Gus n'avait pas chaud. Alors il voyait difficilement comment il était possible qu'une personne normalement constituée puisse crapahuter sans rien pour parer du froid. Il fallait qu'il en ait le cœur net. Mars attendait, assis sur le siège du tracteur. Voyant son maître qui rappliquait, il sauta et courut à sa rencontre en aboyant. Gus remballa tout son fourbi dans la benne, puis se mit rapidement en route. Le soleil était moins vivace et commençait à disparaître derrière une épaisse couche de nuages. Après avoir rejoint sa ferme, Gus gara le tracteur dans la grange sans prendre le temps de décharger son matériel. Arrivé devant la maison, il frappa ses semelles contre une marche de l'escalier pour faire tomber la neige fondue, coincée dans les crampons, et entra. Il n'y avait pas de temps à perdre. Il décrocha son fusil et attrapa une boîte de cartouches dans un des tiroirs du bahut de la cuisine. Quand il sortit, ce qu'il craignait était arrivé. La neige tombait de nouveau et le jour s'en irait dans une heure à peine. Gus appela Mars. Mais le chien était rentré se réfugier dans la grange et n'était pas décidé à le suivre. Il rejoignit seul la forêt des doges au plus vite et se mit à suivre les traces s'enfonçant dans les bois. Elles étaient d'abord espacées, vu que le type devait courir à ce moment-là, puis se resserrait quand il s'était remis à marcher normalement. La nuit tombait et la neige commençait à recouvrir les traces. Gus avait de plus en plus de mal à les suivre. Il parvint néanmoins à faire quelques centaines de mètres, malgré la fatigue et ses croquenots qui s'enfonçaient d'abord dans la neige, ensuite dans l'épaisse couche de feuilles sèches en dessous. Il était prêt à rebrousser chemin, pensant que tout ça ne le mènerait à rien jusqu'à ce que les traces bifurquent sur la droite, histoire de sortir de la forêt. Gus suivit alors la piste jusqu'à la lisière, puis dans le champ du Prat. N'y voyant plus rien, il dut abandonner au bout de quelques minutes, estimant la direction qu'avait pris le type. La ferme d'Abel se trouvait exactement dans cette direction-là. Gus se dit qu'il irait lui demander le lendemain s'il avait vu quelqu'un rôder dans les parages. Pour l'heure, il n'avait plus qu'une hâte. C'était rentrer, se réchauffer et se reposer un peu avant de s'occuper des bêtes. Le trajet du retour fut particulièrement pénible, bien plus que l'aller. En plus de la fatigue, Gus avait la gorge qui commençait à le piquer sérieusement. Mars l'attendait au portail en remuant la queue avec l'inquiétude qui caractérise un regard de chien, même content, comme l'expression d'une infinie tristesse. Il fit fête comme s'il n'avait pas vu son maître depuis plusieurs jours. Gus entra à l'intérieur de la maison pour allumer un bon feu, avec dans l'idée que la flambée ait fait son œuvre lorsqu'il aurait terminé son travail à l'étable. Toute la soirée, Gus eut beau retourner les événements dans tous les sens, il ne comprenait pas ce qu'un type pouvait bien trafiquer pieds nus dans la campagne recouverte de neige. Ce n'était peut-être pas un type, après tout. Et sans qu'il puisse l'expliquer, ça le dérangeait encore plus, cette hypothèse, d'avoir affaire à autre chose qu'un type. Il n'avait pas vraiment faim. Mais il fallait bien récupérer de toute l'énergie dépensée durant la journée, alors il mangea du pâté, étalé sur du pain, fuma un demi-paquet de gitane, but le contenu d'une cafetière de café bien fort et s'endormit tard en repensant aux événements de la journée. Il se réveilla avec. Il s'était remis à neiger durant la nuit et Gus avait attrapé une sacrée fièvre. Cette lecture est terminée pour ce soir. Cette émission a été réalisée par Frédéric Guillon. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast sur le site de Bretagne 5, bretagne5.fr. Nous nous retrouvons demain pour la suite du roman de Franck Bouys, Grossir le ciel. Bonsoir.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.